Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall.
Après sa lutte avec Dieu, sinon contre Dieu, dont nous avons parlé dans nos rencontres précédentes, nous avons laissé Jacob face à son frère Ésaü, donc une rencontre qui s'avérait difficile, mais qui finalement s'est assez bien passée. Il avait amadoué son frère en lui faisant parvenir, avant qu'il n'arrive lui-même, des chariots de cadeaux pour l'amadouer. Et les choses se passent assez bien. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est le moment cordial de cette rencontre. Et toujours est-il qu'après ça, en effet, les frères ne se fréquentent pas beaucoup et vivent chacun sur son territoire sans trop se retrouver. Mais la fin du livre de la Genèse donc, est consacrée à un autre personnage qui est Joseph, un des fils de Jacob. La fin du livre, en effet, et de nombreux chapitres, est consacré à l'histoire de Joseph, le fils aîné de Rachel, et Rachel qui était l'épouse bien aimée. Contrairement à Léa qui a donné beaucoup d'enfants, tandis que Rachel était stérile, et Léa a donné beaucoup d'enfants à Jacob, mais c'était surtout Rachel qui l'aimait. Donc Joseph, le fils aîné de Rachel, qui, comme son père, est favorisé de songes. Deux rêves semblent lui prédire un avenir glorieux, à tel point que non seulement ses frères devront se prosterner devant lui, mais aussi son père et sa mère. C'est au chapitre 37 de la Genèse. Donc, il faut remarquer que Dieu ne parle pas à Joseph de façon personnelle. Les liens ne semblent pas les mêmes entre Dieu et Joseph que ceux qui unirent Dieu et Abraham, ou bien même de Dieu et Jacob. Joseph, en toute son histoire, apparaît plus comme un instrument docile et fidèle des desseins divins que comme un ami ou un intime de Dieu. Par jalousie, avec les 12 tribus de Jacob, les 12 enfants de Jacob, qui resteront les 12 tribus, vous savez, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, on voit qu'il y a 12 portes dans la Jérusalem céleste, comme autant de tribus d'Israël, chaque porte il y a un ange, etc. Donc, et de 12 apôtres aussi, donc ce chiffre est très important, des fils de Jacob. Mais donc par jalousie, il est vendu par ses frères, bien qu'il ne soit pas le dernier, parce qu'ensuite il y a un autre frère qui est né par sa femme Rachel, qui est Benjamin, le fils de la droite, littéralement en hébreu. Mais donc par jalousie, il est vendu par ses frères, mais Dieu bénit tous ceux chez qui il passe. Non seulement il est l'héritier de la bénédiction d'Abraham, mais encore les songes qu'il fait manifestent en lui un homme en qui réside l'Esprit de Dieu, et c'est reconnu comme tel. En outre, son intégrité lui assure la confiance de ceux qui l'emploient. Il refuse toute aventure entachée d'adultère et met son honneur à s'acquitter de son mieux des tâches qu'on lui confie, et qui vont croissantes. Jacob reste un personnage d'une certaine raideur. Il n'a pas de l'humanité riche de son père, qui, jusqu'à la fin de la Genèse, est le héros véritable de toute l'histoire. Jacob. Dieu continue à parler très personnellement à Jacob, ce qui n'arrive pas à Joseph, d'après les textes qu'on peut lire dans la fin de la Genèse. Au moment où Israël se rend en Égypte pour rejoindre son fils, mais Israël ou Jacob, son fils, qui est devenu le grand vizir, etc., de l'Égypte, Dieu lui apparaît dans une vision nocturne et lui dit encore une vision. Jacob, Jacob. Et Jacob lui répond, me voici. Et Dieu répond, je suis elle. Vous savez, le elle, c'est la désinence de Dieu. Rachel, Michel, Gabriel, Raphaël, etc. Donc je suis elle, le Dieu de ton père, n'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Et à tel point que ça faisait peur aux Égyptiens à la fin, et qui le pharaon ordonnait de noyer dans le Nil tous les enfants mâles qui viendraient. C'est ça, c'est le début du livre de l'Exode. Donc je suis elle, le Dieu ton père, n'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, c'est moi aussi qui t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Et quand Jacob, notre épisode, adopte et bénit les deux fils de Joseph nés en Égypte, Manassé et Éphraïm, il renouvelle le passe-droit qui est à l'origine de sa destinée. Il pose la main sur le cadet, Éphraïm, et sa main gauche, la moins noble, sur l'aîné, Manassé. Et Joseph lui en fait la remarque. « Pas comme cela, père, car c'est celui-ci l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa et dit, « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Pourtant, son cadet sera plus grand que lui. Sa descendance deviendra une multitude de nations. » La Genèse s'achève par les bénédictions de Jacob sur chacun de ses 12 fils, par sa mort et ses funérailles. Et la grande leçon qui ressort de la geste de Jacob est la liberté de Dieu dans ses choix, d'une part, et l'art qui est le sien de tirer le bien du mal, d'autre part, de la part de Dieu. À cause des personnages quasi parfaits comme Abraham, Joseph et Moïse, l'histoire du salut donne une grande place à des figures hautes en couleur, celles de Jacob et de David, par exemple, illustrant ainsi les chemins de l'amitié divine dans l'existence contrastée de ces êtres pleins d'humanité. Les uns et les autres sont la garantie vivante que Dieu nous prend tel que nous sommes en vue d'une relation unique avec lui, quelles que puissent être les vicissitudes de nos vies. L'essentiel, c'est de consentir à l'étreinte de Dieu, que ce consentement soit spontané et immédiat, ou qu'il soit donné au pied du mur. Dieu sait attendre, à nous de ne pas le décevoir.